Ce soir, on ouvre donc un nouveau chapitre. C'est le septième, la septième étape. Vous avez le papier sous les yeux. Il va être question d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'on va parler d'Abraham? Eh bien, parce que figurez-vous que la première page du Nouveau Testament, qui nous parle donc de Jésus, c'est l'évangile de Saint Matthieu, le premier des quatre évangiles, qui commence ainsi. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Quand on veut nous parler de Jésus, on nous dit qu'il est fils du roi David et qu'il est descendant d'Abraham. Et après, il y a la généalogie qui démarre à Abraham. Abraham engendra Isaac, donc son fils. Isaac engendra Jacob, etc. Et donc, quand on veut nous parler de Jésus, dans la première page du Nouveau Testament, on le situe comme de la descendance d'Abraham. Et il est question d'Abraham 74 fois dans le Nouveau Testament. C'est un des personnages les plus importants de l'Ancien Testament, cité dans le Nouveau, avec Moïse, évidemment. Il est question d'Abraham comme un ami de Dieu. On a ça dans la lettre de Saint Jacques. Et puis, Saint Paul, dans la lettre aux Romains, toujours dans le Nouveau Testament, dit que Abraham est le père de tous les croyants. Nous croyons que Abraham est le père de tous les croyants. Donc, c'est la grande figure de l'Ancien Testament qui, nous permet de mieux connaître le Christ. Ça peut paraître un peu surprenant, mais vous allez voir. La généalogie de Jésus commence avec Abraham, ça veut dire que Jésus est le terme ultime de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Pour le dire autrement, on ne peut pas connaître Jésus si on ne connaît pas Abraham. On ne peut pas se mettre à la suite du Christ sans se mettre à l'école d'Abraham, qui est le père des croyants. Et donc, on ouvre le livre de la Genèse, qui est donc le premier livre de la Bible, et qu'on a déjà travaillé, puisqu'on a commencé par le récit de la création. La dernière fois, il a été question de l'alliance avec Noé. Et aujourd'hui, on va ouvrir les pages qui concernent Abraham. On parlera précisément de l'alliance avec Abraham dans la prochaine rencontre, mais on va parler ici de l'appel de Dieu à Abraham. Alors, petite subtilité, c'est que dans le texte du livre de la Genèse au chapitre 11 et 12, il est question d'Abraham, A-B-R-A-M. Il n'y a pas le H et le A qui sont comme rajoutés dans la deuxième alliance qui sera citée un peu plus loin, au chapitre 17, là on est au chapitre 11, mais c'est bien la même personne, ne vous inquiétez pas. Et il va être question de l'appel d'Abraham, au chapitre 12, et avant, pour qu'on comprenne bien l'appel d'Abraham, on va commencer un petit peu plus haut, dans un texte qui est un petit peu difficile, mais je vous le lis quand même, et puis je vous l'expliquerai. Ça commence donc avec le père d'Abraham qui s'appelle Terah. On est au chapitre 11, verset 27. Voici la descendance de Terah. Terah engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut avant son père Terah dans le pays de sa parenté, à Ur des Chaldéens. Abraham et Nahor prirent femme. L'épouse d'Abraham s'appelait Sarai et celle de Nahor Milka, fille de Haran, père de Milka et Ishka. Sarai était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Terah prit donc son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai, femme de son fils Abraham, qui sortirent avec eux d'Ur des Chaldéens pour aller au pays de Canaan. Ils gagnèrent Haran, où ils s'établirent. Terah, vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. Il rentre dans le chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, « Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les personnes dont ils s'étaient entourés à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit « À ta descendance, je donnerai ce pays ». Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Alors voilà ce qu'on va essayer de comprendre, mais je fais simplement un petit récap sur les épisodes précédents. La dernière fois, il avait été question de l'alliance avec Noé. Vous vous rappelez, l'alliance avec Noé, c'est une alliance de paix et de miséricorde universelle pour toutes les nations. Dieu décide de ne plus faire périr les pécheurs, il leur fait miséricorde pour toujours. C'est Dieu qui décide tout seul et il le fait avec un signe. Le signe de l'alliance avec Noé, c'est l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, avec cette interprétation que moi j'aime beaucoup, un arc à l'époque, c'est quoi? C'est un instrument de guerre pour tuer. Vous prenez un arc, vous retirez la flèche, vous le posez sur un nuage, et Dieu dit « Je me souviendrai que je ne ferai plus périr le pécheur ». C'est-à-dire que je me souviendrai que je n'utiliserai plus l'arc pour faire payer au pécheur les conséquences de son péché, c'est-à-dire la mort. Bon. Et donc Dieu fait une alliance de miséricorde. Et puis, quand on tourne les pages après l'alliance avec Noé, il y a l'épisode de la tour de Babel. Je ne sais pas si ça évoque des choses pour vous. La tour de Babel, vous irez le lire si vous voulez, au chapitre 11. En fait, c'est l'homme qui, par lui-même, veut atteindre les cieux. Voilà. Et la conséquence, c'est que Dieu met la division entre les peuples, parce que c'est un péché très grave que de vouloir, par soi-même, vouloir atteindre Dieu. Dieu se révèle et se donne, on ne met pas la main sur Dieu. Et la conséquence, c'est la division entre les nations, avec des langues différentes, qui font que les peuples ne se comprennent plus. Et vous avez une petite image, une reproduction de ce qu'on appelait à l'époque une ziggourate, c'est-à-dire c'est une construction religieuse de type païen, qui offense profondément le Dieu d'Israël, parce qu'on utilise des moyens païens, avec une divinité au sommet, alors que Dieu s'est manifesté et s'est révélé comme le Dieu du peuple d'Israël. Bon. Et l'alliance avec Dieu va prolonger l'alliance va prolonger l'alliance que Dieu a faite avec Noé. Et le catéchisme de l'Église catholique nous dit que l'enjeu de l'alliance avec Abraham, c'est le salut universel et le rassemblement de l'humanité dispersée. On fait tous l'expérience, et puis l'actualité tous les jours nous le montre un peu plus, que les peuples ne se comprennent plus et qu'ils sont divisés. Et dans l'alliance avec Abraham, Dieu veut réunir toute l'humanité pour rassembler l'humanité dispersée. Dieu élit Abraham en l'appelant hors de son pays, de sa parenté, de sa maison, pour faire de lui Abraham, c'est-à-dire le père d'une multitude de nations. Le peuple issu d'Abraham sera le dépositaire de la promesse faite au patriarche, le peuple de l'élection, appelé à préparer le rassemblement un jour de tous les enfants de Dieu dans l'unité de l'Église. Il sera la racine sur laquelle seront greffés les païens devenus croyants. Alors, on va rentrer maintenant dans l'appel propre, ce qu'on a entendu. Pourquoi est-ce que Dieu dit à Abraham « Quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père et va vers le pays que je t'indiquerai ». En fait, c'est l'appel fondamental qui a résonné dans le cœur d'Abraham et qui va éclairer notre appel à chacun d'entre nous. Vous allez comprendre que c'est très éclairant. Alors d'abord, il faut comprendre, avec le tout petit paragraphe que j'ai lu juste avant, l'itinéraire qu'a fait la famille d'Abraham quand son père Terah, dont il était question tout à l'heure, est passé de Ur en Chaldée, c'est près du golfe Persique, et est monté en Mésopotamie à la ville de Haran. Ça, c'était avant l'appel d'Abraham. Le père d'Abraham, Terah, avait quitté Ur pour s'installer avec sa famille à Haran. Et à présent, Abraham est appelé à quitter cette ville d'Haran pour aller en terre de Canaan. En gros, c'est la Galilée d'aujourd'hui, on dirait Israël aujourd'hui. Et donc, avec ces deux épisodes-là, il aura ainsi parcouru ce qu'on appelle le croissant fertile depuis la Chaldée jusqu'en terre de Canaan, en passant par la Mésopotamie. On ne peut pas traverser d'ailleurs parce qu'il y a un grand désert au milieu. Bon, il y a la Jordanie et d'autres pays actuels. Alors, en fait, donc on comprend que dans l'appel d'Abraham, il y a beaucoup de verbes de mouvement. Il s'agit de quitter, de partir, de se mettre en route, d'aller. Pourquoi est-ce que cette famille est dans des exils successifs? Pourquoi est-ce que Terah a quitté Ur en Chaldée? Et pourquoi est-ce qu'à présent, Abraham est appelé à quitter Haran? Quelles sont les raisons? Quel est le but? Alors en fait, il faut regarder de près dans le petit texte du chapitre 11 que je vous ai lu, qui était un petit peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez suivi la généalogie. Moi, j'ai un peu mal à comprendre. Il faut que je la relise à chaque fois. Bon, en fait, elle nous dit quoi? Quand on regarde tout le chapitre 11, on se rend compte que Terah, donc le père d'Abraham, et ses enfants ont tous une difficulté par rapport à la vie, à l'accueil de la vie et au don de la vie. Par exemple, Terah n'a pu donner la vie qu'à l'âge de 70 ans, alors que tous ses aïeux, avant lui, avaient donné la vie entre 29 et 35 ans. Donc il y a une question de difficulté pour donner la vie de la part du père d'Abraham. D'autre part, Abraham épouse donc, sa femme s'appelle Sarai. Après, elle va s'appeler Sarah, il y aura une petite modification, mais peu importe. Sarai, elle est stérile, elle ne peut pas donner la vie. D'accord? Par ailleurs, Haran est mort du vivant de son père en laissant trois orphelins. Et donc, cette famille, elle est marquée par une difficulté par rapport à la vie et elle est blessée par la mort d'Haran. Voilà, vous avez compris. Première chose. Donc, quitter sa parenté, c'est quitter une famille qui est marquée par une difficulté par rapport à la vie. La maison du père, alors l'étymologie de Abraham signifie au père élevé, au père glorifié, comme si Abraham n'existait que parce que son père était quelqu'un de remarquable. C'est ça que ça veut dire. Bon, donc il est condamné à être un éternel enfant pour satisfaire l'ego de son père. C'est ça que psychologiquement la traduction du verbe, du mot Abraham signifie. Et puis, donc la parenté, la maison de son père, son pays. Ce qui est assez étonnant, c'est que ils se sont installés dans la ville d'Aran, qui est le même nom que le frère qui est mort. Vous avez un frère qui est mort, vous déménagez et vous allez vivre dans une ville qui porte le nom de ce frère qui est mort. Ça va? C'est le même nom en hébreu, Aran. Et donc, la ville où ils étaient arrivés, dans cette premier exil, porte le nom du frère défunt. Et c'est à cet endroit-là que Terah, le père d'Abraham, est mort. Et donc, quand Dieu lui dit, quitte ta parenté, la maison de ton père et ton pays pour le pays que j'indiquerai, en fait, il fait sortir de la mort. C'est très intéressant. Dieu appelle Abraham à quitter son pays, sa parenté, la maison de son père, parce que tout est marqué par la mort. Et Dieu veut donner la vie à Abraham. Et c'est-à-dire que ce sera l'objet de la promesse, puisqu'il va lui promettre une descendance, alors même que sa femme est stérile. Et donc, l'appel de Dieu à Abraham est: quitte ces lieux de mort, car tu as été créé pour la vie. Ta femme est stérile, mais tu n'as pas été créé pour la mort, tu as été créé pour donner la vie. Et avant d'être le fils de Terah, tu es le fils de Dieu, et donc quitte la mort pour recevoir et donner la vie. C'est ça, en fait, le fond de l'appel de Dieu à Abraham. C'est magnifique. Et Jésus dira que le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. C'est très intéressant. Et il va lui donner donc de vivre, et en même temps, il lui parle. Il lui parle, et donc il se révèle à lui. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que d'une certaine façon, Dieu vous a parlé et s'est fait connaître un peu à vous. Sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Et comment est-ce que Dieu lui donne la vie? Eh bien, dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dit: la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Vivre, pour un croyant, c'est connaître Dieu. Si je connais Dieu parce que Dieu est vie, alors j'accueille quelque chose du mystère de la vie. Et c'est ce qui me frappe dans les itinéraires des uns des autres, et dans mon propre itinéraire, quand j'ai vécu une conversion, et quand je vis des conversions encore aujourd'hui, c'est qu'il y a, ça fait une, il y a une œuvre de vie qui se produit en moi. Accueillir le mystère de Dieu, c'est pas simplement avoir des idées sur Dieu, avoir des idées que Dieu est créateur, en fait, ça change pas ma vie. Si je l'accueille pas dans une connaissance, voilà, quotidienne, c'est bon. Alors jusque-là, en fait, Abraham avait quand même une certaine connaissance de Dieu. Comment est-ce qu'il le connaissait? Mais d'abord, par la culture païenne dans laquelle il vivait. En Mésopotamie, on a des divinités, bon. Et puis par sa famille, il est descendant de Noé. Abraham, vous regarderez bien, si vous êtes curieux, dans le chapitre en question, Abraham est présenté comme un descendant de Noé. Donc Noé avait déjà eu une relation avec Dieu, et donc il y a une tradition familiale qui transmet une certaine connaissance de Dieu, et puis il a déjà une certaine expérience. Alors, pourquoi est-ce que Dieu l'appelle à quitter son pays, sa parenté, la maison de son père? Mais c'est pour le libérer sans doute d'une connaissance trop partielle, trop erronée, pour pouvoir le connaître réellement. En lui parlant, c'est une révélation directe que Dieu offre avec Abraham. Et un livre de la Bible, qui est le livre de Judith, dit que déjà, il s'établit, donc sa famille, s'établit en Mésopotamie, donc vous savez, la première migration, parce qu'ils ne voulaient pas suivre les dieux de leur père qui étaient nés en Chaldée. Donc déjà, ils étaient libérés de l'influence d'un paganisme avec des divinités pour s'attacher à Dieu. Et là, pour s'attacher davantage à lui, deuxième exil, deuxième rupture, en quittant sa terre, sa famille, il va quitter non seulement sa propre culture avec ses fausses divinités, mais aussi ses propres certitudes pour tout recevoir de Dieu. Parce que finalement, le paganisme auquel on est appelé, chacun d'entre nous, à renoncer, c'est de s'être forgé nous-mêmes nos propres croyances sur Dieu. Je ne sais pas comment vous êtes construit, mais on se construit tous avec en fait des représentations de Dieu liées à notre tradition familiale, on nous a dit des choses, liées à la culture dans laquelle on vit, liées à notre expérience, mais ce sont des prismes qui sont limités et partiels pour connaître Dieu, et parfois erronés. Parce que si j'ai vécu un drame en famille, je peux penser que Dieu n'est pas bon. Puisqu'il a permis que des proches décèdent ou que j'ai une grave maladie, etc. Et donc je peux à un moment me forger une croyance sur Dieu qui ne correspond pas à la réalité du mystère. Voilà. Et donc Abraham quitte sa tradition familiale et les lieux dans lesquels il a forgé sa propre connaissance de Dieu pour entrer dans une nouvelle connaissance de Dieu. Et il y a une citation d'un père de l'Église, dans les premiers évêques que j'aime beaucoup, Saint Grégoire de Nice, qui dit « C'est précisément parce qu'il ne savait pas où il allait qu'Abraham était certain d'être dans la bonne direction. » C'est un peu surprenant. « Car il était sûr ainsi de ne pas se conduire par les lumières de sa propre intelligence, mais d'être conduit par la volonté de Dieu. » Alors, c'est une citation dont il ne faut pas trop abuser. Si vous ne savez pas où vous allez, vous êtes dans la bonne direction, attention, vous pouvez aller n'importe où. Mais c'est intéressant de dire que, en fait, se lâcher prise par rapport à sa propre détermination, sa propre volonté, ses propres projets, lui permettent de penser que ce n'est pas sur sa propre connaissance de Dieu qu'il s'oriente, mais qu'il se laisse conduire par Dieu lui-même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en Abraham, c'est finalement toute notre vocation chrétienne qui se trouve annoncée. D'ailleurs, Jésus se présente comme la parole de Dieu, le Verbe qui éclaire tout homme en venant dans le monde. C'est ce qu'on a entendu le jour de Noël. Il est le Verbe, la parole qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et il dira, « Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que on comprend que de même que Abraham, pour entrer dans une nouvelle connaissance de Dieu, que Dieu se révèle à lui, fallait qu'il accepte de quitter son mode opératoire de pensée et de vie, se déplacer. En fait, de même dans la rencontre avec Jésus, c'est ce qui va se passer pour les premiers disciples. Les premiers disciples, en fait, ont été amenés à tout quitter pour suivre Jésus. On peut le voir par exemple dans l'évangile de Saint Matthieu. On est au chapitre 4. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient des filets dans la mer, car c'était des pêcheurs. Jésus leur dit: Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, Jésus avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. On comprend que les premiers disciples de Jésus ont été amenés à quitter leur lieu de vie, de travail, voilà, et pour suivre Jésus, et que c'est le moyen qui était nécessaire pour qu'ils puissent le connaître de près. On a ça aussi dans l'évangile de Saint Jean. Bon, on ne peut pas lire tous les textes, mais voilà, c'est caractéristique de l'appel du disciple de Jésus. D'ailleurs, vous avez entendu, à deux reprises dans l'évangile de Saint Matthieu, sur l'appel des disciples, il est dit qu'aussitôt, aussitôt, ils quittent tout et suivent Jésus. Et Abraham, on ne dit pas si c'est aussitôt, mais il accepte de quitter. Voilà ce que je disais tout à l'heure, c'est que quitter, c'est renoncer à la maîtrise de nos projets, qui sont parfois des projections de nos désirs. Hein, tant que je veux maîtriser toute ma vie, Dieu ne peut pas se révéler et agir pleinement. Et la vie chrétienne est une découverte sans cesse du mystère de Dieu par l'écoute de sa parole qui nous fait avancer, qui nous fait le connaître, en nous détachant de certitudes acquises. Peut-être qu'on pourrait prendre une minute par binôme là. Est-ce que, pour répondre à la question suivante, dans le chemin de foi que je fais depuis quelque temps, je sais pas, bon. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai été amené à quitter pour me mettre à l'écoute de Dieu de façon nouvelle? Ça va? Vous comprenez la question? Voilà, on peut prendre 2 minutes pour faire un petit point là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses que j'étais amené à quitter, soit dans mes propres convictions, soit dans ma façon de vivre, soit dans mon réseau relationnel, pour pouvoir avancer dans la foi? Comme Abraham. Ça va? Vous comprenez la question? On prend 2 minutes avec le voisin, d'accord? Je vais me permettre de donner un petit témoignage personnel, parce que j'ai vécu une expérience à un moment qui m'a profondément marqué. J'avais 24 ans, j'avais discerné que le Seigneur m'appelait à être prêtre, et moi je suis originaire de Reims, en Champagne, et j'avais fait des études à Lille, et voilà, j'étais en lien avec la communauté de l'Emmanuel, et donc j'ai dit à la communauté de l'Emmanuel, ben voilà, où est-ce que je commence à me préparer à être prêtre avec la communauté de l'Emmanuel. Et on m'a dit, ça serait bien que tu ailles à Lyon. J'ai dit, ben Lyon, ça fait quand même 500 km de chez moi. Bon, j'ai quitté papa et maman depuis 5 ans, puisque je suis étudiant à Lille, mais ça fait un peu loin de chez moi. Alors, par prudence, j'ai dit, oh là, avant de répondre, je vérifie, je vais voir. Et donc, je prends le train et je viens voir ici, sur les pentes de la Croix-Rousse, où il y avait un groupe de jeunes de la communauté de l'Emmanuel qui se préparaient à être prêtres. Et donc, je vais voir, et je me dis, intérieurement, je me dis, c'est quand même un peu loin de chez moi. Bon. Et puis, j'arrive sur les pentes de la Croix-Rousse, et à l'époque, c'était pas très brillant, c'était même assez crasseux. Et donc, je me dis, c'est un peu loin de chez moi, et franchement, c'est crasseux. Bon. Et j'arrive un vendredi, je suis très bien accueilli par les jeunes qui vivaient là, sur les pentes de la Croix-Rousse. Et il y avait un temps de prière, d'adoration, le soir même, c'était un vendredi soir. Alors j'y vais et je dis, bah, écoute, Seigneur, je veux être ton disciple, je veux faire ce que tu veux. Donc montre-moi si c'est bien que je vienne à Lyon. Mais franchement, je trouve que c'est un peu loin et un peu sale. Parce que je pense que j'avais compris à l'époque qu'il faut dire ce qu'on pense au Seigneur. Et puis après ça, avec un cœur humble, dire, bah, Seigneur, maintenant parle-moi. Et j'ai fait une chose que je ne faisais jamais. J'ai dit, Seigneur, bah, parle-moi. J'avais ma Bible, j'ai ouvert ma Bible, j'ai dit, montre-moi ce qui est bien. Et je tombe sur Saint Luc au chapitre 14. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ah, ben, je dis, Seigneur, pour la question de la distance avec ma famille, c'est hyper clair. Bon. Voilà, bon. Et puis le paragraphe, ça continue un peu plus loin, et le paragraphe suivant termine en disant, celui qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. Ah, mais, Seigneur, ça répond complètement à la deuxième question. Je trouvais ça un peu crasseux. En fait, c'est pas le sujet. Et donc, message reçu 5 sur 5. Et j'ai compris que le Seigneur me disait clairement, écoute, tu veux me suivre, tu veux me suivre, accepte de ce qu'on te propose et tu verras, c'est bien, et fais-moi confiance, quoi. Et donc, ça m'a libéré. C'est une parole qui m'a libéré. Et j'ai dit, ok, je viens à Lyon. Et j'ai vécu ici des années absolument exceptionnelles de découverte de la foi, d'enseignement, de formation à la vie spirituelle, de formation à la prière, de formation à la vie communautaire, de formation à la mission. On était 15 garçons et 15 filles à vivre dans différents appartements sur les pentes de la Croix-Rousse. On se retrouvait tous les soirs à la messe pour prier, se soutenir dans la foi, évangéliser. C'était une période extraordinairement féconde dans ma propre vie chrétienne. Et j'ai compris qu'en fait, quand je relis l'histoire, il avait fallu que j'accepte, voilà, de quitter, quoi. De quitter mes certitudes, ma famille, mon réseau, mes amis, etc., pour pouvoir me mettre à la suite du Seigneur. Voilà. Et je reconnais que dans ma vie de prêtre, il y a eu de nombreux événements de ce type-là. Et c'est toujours pour moi un peu anxiogène. Comment ça va se passer et comment je vais faire? Bon. Voilà. Et à chaque fois, je peux dire que le Seigneur m'a ouvert des nouveaux horizons, des nouvelles personnes, des nouvelles rencontres, voilà, passer au-dessus de mes appréhensions, quoi, hein, qui sont là et que je dis au Seigneur, je dis, Seigneur, j'ai peur, mais bon, si vraiment c'est ton appel, tu me le montres clairement et ok, je te fais confiance. C'est intéressant parce que ça touche à une question qui est la question du discernement, c'est-à-dire comment est-ce que je vérifie que c'est une vraie parole du Seigneur qui m'est adressée, et non pas simplement mon imagination ou une tentation. Parce que si vous quittez tous ce soir toutes vos études et votre famille, à mon avis, on n'aura pas gagné. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que Abraham, dans le texte qu'on en a, enfin, a reconnu que c'est Dieu qui lui a parlé, et pas son imagination. Et puis, première remarque, il a entendu une parole qui venait de Dieu. Il a su que c'était Dieu qui lui parlait. Et deuxièmement, alors que Dieu lui demande de quitter sa parenté, la maison de son père et son pays, il part pas tout seul. Il part avec son neveu, Lot. Donc il part avec un petit bout de la famille quand même. Et il part avec tous ses troupeaux. Et donc il a fait preuve de réflexion et d'intelligence. Vous voyez? Il n'a pas été fondamentaliste dans son interprétation de la parole de Dieu, ok, je fais ça pile poil, et voilà. Il a été intelligent. Et donc, ça veut dire que nous, il faut qu'on apprenne à discerner, c'est-à-dire à comprendre quel est exactement l'appel de Dieu, et puis à y répondre de façon intelligente. Dieu ne nous demande pas de mettre notre intelligence dans notre poche quand nous le suivons. Alors, si vous êtes là et que vous cherchez à vous former dans votre intelligence de la foi, c'est pour pouvoir exercer votre intelligence. C'est très important, hein. Sinon, l'Église serait un grand mouvement sectaire. En fait, Dieu nous appelle à exercer notre liberté. Moi, j'ai pas été contraint par mes amis de la communauté d'Emmanuel pour venir à Lyon. Ils m'ont dit, vas-y. Bon. Et puis, il y a des fois où j'ai dit non. où j'ai pensé que c'était pas, ce qu'on me disait n'était pas l'appel de Dieu, et j'ai dit non, je n'irai pas, parce que je pense que ce n'est pas l'appel de Dieu. Donc j'ai exercé ma liberté, mais dans l'écoute de ce qui est une parole de Dieu. Et donc, vous verrez que la vie chrétienne, c'est une école de discernement pour apprendre à vérifier quel est l'appel de Dieu. Alors, on ne va pas faire une grande soirée sur le discernement, même si c'est très important, mais je peux donner quelques clés simples qui permettent de vérifier qu'on ne s'est pas trop trompé dans l'interprétation de la parole de Dieu. Dieu est bon, et donc ce qu'il va nous proposer est bon et va faire du bien. Voilà. Et donc, on vérifie que l'appel de Dieu, tel qu'on le comprend, va produire du bien, c'est-à-dire de l'amour, de la paix et de la joie. On a ça dans une lettre de saint Paul aux Galates, au chapitre 5, versets 22 et 23. Le fruit de l'Esprit, l'Esprit de Dieu, est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. C'est ce que produit l'action de l'Esprit-Saint dans les cœurs. Si nous écoutons une parole et qu'elle est vraiment donnée par Dieu, elle va produire des choses en nous. Alors peut-être que dans un premier temps, il y a la peur. Oh, comment je fais pour quitter ma famille et venir, allez, oh là là, au secours, ça va être compliqué, oh là, ça me fait peur. Bon, ok, ça c'est le premier ressenti. Mais dans le fond, quand je me mets dans la perspective de répondre oui, est-ce que ça procure un plus grand amour, Seigneur, pour t'aimer et pour te servir, je suis heureux de le faire, ça produit de la paix et de la joie. Et dans les premiers discernements que moi j'étais appelé à poser pour essayer de comprendre quel était l'appel de Dieu, tout de suite, les prêtres qui m'accompagnaient m'ont dit « Ok, tu penses que Dieu t'appelle à ça, écoute bien, garde cette parole en toi et tu vas voir si elle calme, entre guillemets, les peurs immédiates et si, à la place des peurs immédiates, s'installe une paix et une joie. » Et c'est ce qui va te permettre de vérifier que ce n'est pas simplement ton imagination ou bien une tentation. Parce qu'il y a une tentation qui consiste à fuir l'endroit où on est parce qu'on n'y aime pas et on n'aime pas et puis qu'on a envie de bouger et que voilà, on pense que l'herbe est plus verte à côté. Voyez. Donc il faut qu'on apprenne à discerner et ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas le faire seul, de pouvoir soumettre son discernement « il me semble que Dieu m'appelle à ça » à quelqu'un, soit un proche qui est dans la foi comme nous, soit à un accompagnateur spirituel en disant « il me semble que » pour exercer notre liberté intérieure, le soumettre à quelqu'un, sachant que ce n'est pas lui qui décide, c'est moi. Hein. Mais le fait de pouvoir le soumettre à quelqu'un « il me semble que » déjà, ça met de la lumière et de la paix. Hein. Et puis les échos que les autres vont nous donner en disant oui, j'imagine que c'est difficile pour toi, mais je sens que c'est bon pour toi, que ça te fait du bien, toi. Et donc les encouragements des uns et des autres autour de nous nous aident aussi à vérifier le discernement. Et puis il y a les discernements qui sont définitifs. Si vous arrêtez votre boulot, vous démissionnez, etc., ben, c'est définitif. Et puis il y a les discernements qui sont provisoires. Et on peut faire un essai en disant, voilà, il me semble que ça, c'est bien pour moi dans mon chemin de foi d'aller dans tel lieu, j'essaye, et puis si ça ne marche pas, je fais demi-tour, je fais autre chose. Il y a des choses qui sont réformables et d'autres qui ne le sont pas. Mais donc, on n'a pas toutes les clés ce soir, on ne peut pas, mais de dire, finalement, notre travail de chrétien consiste à découvrir les paroles de Dieu pour nous et à y répondre avec notre liberté et notre intelligence. C'est ce qu'Abraham a fait. Et Abraham le fait parce que il est habité par la foi. La foi, ce n'est pas, encore une fois, uniquement avoir des idées sur Dieu, mais c'est entrer dans une relation de confiance envers celui qui nous aime. Je ne peux faire le choix de ceci ou de cela, de répondre à l'appel de Dieu, que parce que je crois que Dieu est bon, qu'il me connaît, qu'il veut mon bien, parce qu'il m'aime. Voyez voilà. Et donc, je rentre par la foi dans une relation de plus en plus grande. Et en fait, je ne peux connaître cet amour de Dieu que si j'accepte, à un moment ou l'autre, de risquer quelque chose de ma vie pour lui. Voyez. Si vous ne renoncez à rien, vous ne connaîtrez pas le Christ. Voyez. Soit peut-être que vous avez renoncé à rester au chaud chez vous, sous la couette, alors qu'il faisait froid. Bon, pardon, c'est un petit renoncement, mais c'est des petits renoncements qui nous font avancer. Voyez. Voilà. Et donc, en appelant Abraham, Dieu va susciter en lui la foi expérimentée comme un acte de confiance totale en Dieu, qu'on appelle l'abandon, le fait de s'en remettre à la grâce de Dieu. Voilà. Et alors, l'épître aux Hébreux qui est citée là dit « La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. Et quand il est arrivé, Dieu lui a dit « Je te donne ce pays à toi et à ta descendance. » Donc le fruit, il sera donné parce que Dieu est bon et qu'il nous conduit. Parfois, on ne le comprend qu'après coup. Il a fallu, à un moment, faire ce qu'on appelle un pas dans la foi, faire un acte, faire confiance, s'en mettre à la grâce de Dieu. Voilà. Et donc, on comprend que, en fait, Dieu a un projet et avait un projet d'amour immense pour toute l'humanité. Et pour commencer à le révéler, il a choisi un homme fidèle, Abraham, et qui devra tout quitter pour l'aventure en question, l'aventure de l'amour de Dieu, de la cour de l'amour de Dieu. Et que, en fait, c'est pas un détachement qui va, l'amoindrir lui-même. Au contraire, comme vous l'avez compris au début, les ruptures auxquelles il est appelé, en fait, vont lui permettre de devenir davantage lui-même. C'est toujours un peu paradoxal dans la foi chrétienne. Quand vous quittez des choses, vous dites, oh, je vais perdre des choses. Mais si vous l'écoutez pour Dieu, en fait, vous devenez davantage vous-même. Je ne suis jamais autant davantage moi-même qu'aujourd'hui en ayant renoncé à un nombre de choses. Bon. Je n'ai pas le sentiment que Dieu m'ait amoindri. Au contraire, Dieu m'a déployé dans mon être profond. Vous voyez, ça qui est intéressant. Ceci dit, il y a un principe qu'on a déjà un petit peu touché du doigt dans le récit de la création, quand on a lu le récit de la création. Quand Dieu crée, il sépare la lumière et les ténèbres, il sépare les eaux du ciel et les eaux de la terre, et puis il dira qu'il faut quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Tout en honorant ses parents, il faut les quitter pour pouvoir fonder un couple. Et donc, devenir soi-même, dans notre chemin avec Dieu, ça passe par des séparations et par des renoncements, et là, le renoncement à la relation fusionnelle avec ses parents. Même si vos parents sont chrétiens et sont des gens admirables, etc., à un moment, il faut un peu les quitter dans la foi pour pouvoir trouver son propre chemin spirituel. Alors, on ne peut pas être simplement les enfants de ses parents, même si on a reçu la foi à la maison. Voilà. Et donc, quitte ton pays, en hébreu, peut signifier « va pour toi, loin de ton pays hein. ». L'enjeu est ce « pour toi ». Si Dieu appelle l'homme, c'est pour le bonheur de l'homme, pas pour autre chose. Et un croyant sait que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, Dieu nous mène à notre accomplissement, vers le bonheur. Voilà. Si nous acceptons les renoncements, voilà. Et puis, ce qui est très beau, on va terminer là-dessus, c'est que Abraham est appelé par Dieu à tout quitter pour un autre pays afin d'engendrer un peuple et d'être pour tous les peuples signe de la bénédiction de Dieu. Je ferai de toi un grand peuple. Et puis, un peu plus tard, on l'entendra la prochaine fois. Lève les yeux au ciel, dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. Et il lui dit, voilà, regarde les étoiles du ciel. Telle sera ta postérité. Et aussi, un peu plus loin, Genèse chapitre 17, le Seigneur apparaîtra et dira à Abraham, j'institue mon alliance entre moi et toi, je t'accroîtrai extrêmement, tu deviendras père d'une multitude de nations, je te rendrai extrêmement fécond. Voilà. L'alliance de Dieu avec Abraham est source de sa fécondité, une multitude de nations, de croyants, naîtront de lui, et cette multitude sera unie par toi, se béniront tous les clans de la terre. Voilà. Cette bénédiction réparera donc ce qu'on a au chapitre précédent, c'est-à-dire la dispersion des peuples qui ne se comprennent plus depuis la construction de la tour de Babel. Et c'est vrai pour nous aussi, c'est-à-dire que quand on accepte de quitter pour suivre Dieu et répondre à sa parole, en fait, Dieu nous donne une fécondité. Dieu nous donne de porter du fruit. Alors, pour certains, par le fait d'avoir des enfants parmi nous, voilà, que le Seigneur bénit. Mais chacun de nous, on reçoit une fécondité. Et quand Abraham accepte de quitter pour Dieu, il va permettre à d'autres d'être bénis. Et quand nous acceptons aussi de suivre, de répondre à l'appel de Dieu, nous allons aussi porter du fruit. Voilà. Il y a un témoignage qui me revient à l'esprit. Voilà, comme prêtre, je participais à un grand rassemblement de chrétiens à Paray-le-Monial. Si vous avez l'occasion d'y aller un été, n'hésitez pas, c'est magnifique, un grand lieu de pèlerinage. Et là, j'accueille un nombre de personnes et je leur propose un parcours pour accueillir les dons du Saint-Esprit et devenir témoins là où ils sont, dans leur travail, dans leur vie, dans leur famille, etc. Voilà, on fait un beau parcours et on prie l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint fasse de chacun de nous des témoins là où on est. Et il y a un homme qui s'appelle Jean-Marie qui travaille à l'époque à l'aéroport de Saint-Olas et qui dit « Moi, je prie l'Esprit Saint pour qu'il me donne de porter du fruit et de témoigner de ma foi dans mon travail. » Ce qui était tout à fait improbable puisque avec ses collègues de travail, il n'avait jamais à parler de la foi chrétienne. Bon. Donc, je prie pour lui. Et voilà, et il part, et il rentre au boulot. Il arrive au boulot, un lundi matin, il y avait une carte postale autour de laquelle tout le monde discute des vacances, et lui dit « Moi, j'arrive de Paray-le-Monial, et j'ai fait une expérience de la foi chrétienne qui m'a profondément marqué. » Alors, il y a un collègue qui est à côté qui croit à rien du tout, qui passe son temps à jouer de l'argent et à passer d'une fille à l'autre, et qui dit « C'est quoi ton truc ?»« Ben voilà, c'est Paray-le-Monial, c'est un lieu pour des chrétiens qui découvrent l'amour de Dieu pour nous. » Et il dit « Ah bon, moi je peux y aller aussi ?»« Bah oui, si tu veux, il y a encore une session la semaine prochaine. » Et le gars en question, qui s'appelle Eric, débarque dans une session, mais il tombe comme un martien dans la session en question, et il se trouve que j'y étais aussi cette semaine-là. Et donc le gars, cheveux longs, qui regarde, il demande ce qui se passe, et il est touché dès le premier soir par la parole de Dieu, l'histoire de Zachée qui passe son temps à chercher de l'argent, et ça le percute, et il comprend que c'est lui dont il est question. Et il est touché tout de suite par l'amour de Dieu qui l'invite à changer de vie. Et je le croise, et il me dit, « J'habite Lyon, j'ai besoin de lui, moi aussi. » Et il me dit, « Je crois que je suis en train de changer de vie. » Il dit, « C'est magnifique, très bien, bon, il faut qu'on se retrouve. Bon. » Et à la rentrée, il y avait un groupe de prière, à l'époque on se réunissait dans l'église Saint-Irénée, dans le 5e, et il y a le Jean-Marie qui vient, et qui amène son collègue, qui s'appelle Eric. Et il dit, « C'est incroyable !» J'ai prié à Paray-le-Monial pour pouvoir témoigner de ma foi. Je rentre au boulot. Le premier mec à qui j'en parle, il vient à Paray-le-Monial et il se convertit. Et il dit, j'ai le sentiment que je suis rentré sur un terrain de foot et que j'ai marqué en 2 minutes. Et je lui dis, oui, enfin, sauf que c'est l'Esprit Saint qui a marqué quand même, hein, parce que bon, on avait prié pour ça. Et donc c'était magnifique. Et après, il se trouve que j'étais en colloque avec Eric, on a vécu des années de conversion ensemble qui étaient magnifiques. Et moi, ça m'a bouleversé parce que le Seigneur m'avait donné de prier pour quelqu'un pour qu'il témoigne de son boulot. Et le quelqu'un en question, paf, il permettait à quelqu'un d'autre de se convertir, qui est devenu mon frère. Après, on a vécu ensemble comme des frères en Christ, quoi. Moi, je vous souhaite à un moment ou l'autre, peut-être que vous l'avez déjà expérimenté, le fait de pouvoir témoigner de votre foi et de voir d'autres qui accueillent le mystère de l'amour de Dieu pour eux, quoi. Vous voyez et il y a quelque chose de cet ordre-là dans la bénédiction d'Abraham pour toute la descendance. On devient nous aussi, puisqu'on est fils d'Abraham dans la foi, source de bénédiction pour d'autres. Voilà, je vous souhaite de l'expérimenter si vous ne l'avez pas encore expérimenté.